C'est quoi le plan, boss?
Me dis pas que t'es inquiet.
Salut, c'est Soundtrack.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma.
C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance.
Bien le bonsoir, c'est le début de Soundtrack. Je me sens un peu seul en studio. Yves, es-tu là, sœur Anne? Sœur Anne, alors que nous avons...
Anne, ma sœur Anne. Oui,
ah, ça y est,
je suis de ce côté.
On l'a trouvé.
Ouais.
Il vient nous faire une Yves.
Ouais, ouais.
Comme vous l'avez saisi, Teddy n'est pas là. C'est Yves à la technique et à la vidéo. Il n'y a...
Bah, personne. Maëlan n'est pas là non plus.
Donc, voilà, nos amis de la technique. Voilà. Ah, les intermittents, c'est plus ce que c'était.
Voilà, à ce niveau-là, on a viré les jeunes qui sont là, les recrues. Et le technicien, bah, il profite de quelques jours de vacances.
Il a raison.
Ouais,
il a raison.
Mais bon, quand t'as quatre enfants, on ne peut pas appeler ça des vacances. Hein. On le salue quand même, la petite famille est avec.
C'est ça.
Et
on le remercie en ce qui me concerne pour ce qu'il sait, le dossier qu'il sait.
Ouais.
Voilà.
Bon,
et on sinon, comme il
n'y a pas Maëlan, il n'y a pas Facebook. On s'excuse pour ceux qui ont l'habitude sur Facebook. J'espère que vous êtes revenus sur 90.2 FM, DAB+, canal 7B, les enceintes connectées, le www.ornithorynque.net, le côté simple de la radio.
Oui, à la radio, on va faire de la radio. C'est fou, non?
C'est ça.
C'est fou. Alors allons-y. De quoi qu'on parle donc?
Bah, je crois qu'on va essayer de faire une petite spéciale Michael Kamen,
oui.
Mais Michael Kamen, si on va le faire un peu
à
l'anglaise américaine.
Oui, oui, oui.
Et parce que on est le 11 avril, la rediffusion va être le 13 et le 16 avril. Et si je précise ces dates-là, c'est parce que le 15 avril est la date de naissance de ce grand compositeur Michael Kamen. Et il aurait eu 77 ans. S'il n'était pas décédé le 18 novembre 2003, à seulement 55 ans.
Et c'est vrai que oui, tu as raison, c'est un peu l'occasion de lui rendre hommage, car étrangement, étant donné le personnage qui a beaucoup brillé, mais par petites touches, dans plein d'endroits, hormis, on va dire, les Die Hard et les Lethal Weapon, donc l'arme fatale et les 50 minutes pour vivre, etc., etc., et
une journée en enfer,
etc., on le connaît très peu. Et pourtant, le personnage est assez intéressant parce qu'il n'est pas que compositeur. Il a fait tellement plus. Tellement plus.
Et toi,
dans
justement,
le cinéma, il a fait juste une courte carrière.
Oh, courte.
Alors, courte.
De 25 ans, tout de même.
Ça va. C'est pas le jeune de l'année. Ouais. C'est pas le perdreau.
Et toi, qui aime raconter justement les films, nous délivrer synopsis, biographie, compositeur et de cinéaste. Fais-toi plaisir, je vais gérer la bande son.
Oui.
Je suis à la technique, donc j'ai pas toutes les capacités de tout faire.
Mais
donc c'est toi qui va causer un peu plus.
Vous la sentez la prise d'otage?
Ouais,
elle est là. Voilà. Voilà. Donc Michael Kamen, né le 15 avril 1948 à New York, dans la grosse pomme, et mort le 18 novembre 2003 à Londres. Compositeur de musique américain.
Et compositeur à plus d'un titre.
Certes.
Musique de film, auteur-compositeur, chef d'orchestre, oboïste, parolier est très influencé par Bernard Herrmann, qu'on ira peut-être un jour un peu chercher également.
Oui, oui, oui. Il est connu pour ses compositions de films dans les années 80 et 90, avec les bandes originales des séries de films de succès de cette période. Bah, c'est ce que je disais, les Die Hard et les Larmes Fatales. Mais il a fait autre chose. Et actuellement, justement, nous écoutons Robin des Bois, Prince des Voleurs. Et tant qu'à faire, vu qu'il y en avait un peu plus, je vous ai laissé le reste. On se fait la complète.
Bon, peut-être pas toute la complète, mais elle est très agréable. On en remet un peu plus, là.
Voilà, c'est mieux.
Oui, le mec à la technique, il n'est pas doué, il appuie sur les mauvais boutons. Donc s'il y a eu un blanc, en réalité, c'est que Jérôme était en train de parler, mais comme je n'ai pas mis son micro...
C'est l'histoire de ma vie, je suis toujours en train de parler et personne n'écoute. Bon, bref.
Et moi, je regarde la console et je me dis, bah, si j'ai appuyé sur le bouton, bah, oui, mais pas
voilà,
sur le bon.
Voilà, c'est l'histoire de ma vie.
Bon, et donc, Robin des Bois,
et sinon, Robin des Bois, ouais, Prince des Voleurs, film d'aventure américain réalisé par Kevin Reynolds, sorti en 91. On est d'accord, il s'agit de l'adaptation de la légende du célèbre héros anglais. On va se faire un petit synopsis quand même. En Angleterre, 1194, en l'absence du roi Richard Cœur de Lion, retenu prisonnier en Autriche, au retour de la troisième croisade, le shérif de Nottingham, c'est important de le noter, là c'est lui l'anti-héros, règne en tyran sur l'Angleterre, aidé par son cousin Guy de Gisborne, ainsi que par la sorcière Morsiana. Alors, pour ceux qui ont été voir le film, elle est gratinée, je vous conseille d'y aller, juste pour ça. Et le corrompu évêque de Hereford. Lors de son retour en Angleterre aux côtés d'Azim, évadé avec lui des geôles de Terre Sainte, Robin revient au château de Locksley, mais il le retrouve incendié et apprend que son père a été tué par les hommes du shérif après avoir refusé de se joindre à eux. Le scénario, on le voit arriver. Robin jugera alors de le venger. Il retrouve également son amour de jeunesse, c'était pas bien foutu ça, Lady Marianne, qui dans un premier temps ne le reconnaît pas, faut pas déconner, avant de devoir s'enfuir devant les hommes du shérif avec qui il a eu maille à partir en défendant un enfant qui braconnait. Voilà.
Ouais.
La suite, on la voit. Hein.
C'est épique.
C'est épique, c'est bien joué. Et en fait, c'est pas une comédie, mais ça mériterait de l'être.
Mm.
C'est très rigolo quand même. Il y a eu d'ailleurs une sorte d'alarme fatale ou de hot shot fait dessus, où on se moque justement d'un Robin des Bois. Et c'est moins rigolo que celui avec Kevin Costner, je trouve. Parce
finalement,
que là,
la parodie.
Là, on sent les moyens. C'est rigolo aussi, oui. Mais c'est vraiment autre chose. C'est vrai, c'est très potache. Et là, ça reste très très bon enfant avec le petit côté humoristique qu'on trouve aussi dans les James Bond.
Ouais.
Le petit côté humour anglais typique, pince froid, ça cabotine à mort et on aime ça. Et d'ailleurs, qui était pressenti pour le rôle, mon cher Yves ?
Initialement, Mel Gibson est envisagé pour le rôle de Robin. Robin des Bois,
oui.
Mais décline finalement l'offre en découvrant le scénario qui s'avère très différent du film avec Errol Flynn, dont il est totalement fan.
Ouais.
Donc c'est Kevin Reynolds qui pense à Kevin Costner, Alors, avec qui vient de tourner une scène de Danse avec les loups, ouais. Film magnifique. Et Costner s'engage sur le film 3 jours seulement avant le début du tournage et sans avoir lu le script.
On est bien, on dirait une émission, on dirait nous.
On est tranquille.
Oui.
Pour Marianne, ça devait être Robin Wright, mais elle était enceinte. Donc c'est Marie-Elisabeth Mastrantonio, révélée par Abyss de James Cameron en 89, magnifique. Qui est choisie pour le rôle.
Alan Rickman décroche lui celui du shérif de Nottingham après l'avoir refusé 2 fois. Écoutez bien la diva, écoutez-le bien lui, à condition qu'il joue son personnage comme il l'entend.
Ouais.
Et c'est juste horrible parce qu'on voit qu'il est en roue libre dans le film et il a été noté parce que j'ai bien tout potassé tellement j'adore ce film qui a un côté vraiment crunch. On sent bien que lui par rapport aux autres, il fait ce qu'il veut. Il est en roue libre, d'ailleurs il improvise au taquet. Le problème, c'est que la production n'a pas vraiment aimé.
Oui.
Mais bon, le type a failli refuser 2 fois, donc il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut.
Et en même temps, imagine en face les autres qui ont leur scénario, leur texte,
c'est
que,
ça, et
qu'est-ce qu'ils racontent l'autre ?
J'improvise de l'autre, voilà, c'est horrible. Sinon, le rôle d'Azine, donc clairement, c'est pas dans les rôles Flynn, hein, est lui confié à Morgan Freeman.
Oui.
Et alors qu'il te joue, il te joue Taken avant l'heure, c'est-à-dire il te joue le croisé froid avec... ouais, le mec qui va sauver la situation, le barracuda de l'histoire, hein. Mais vraiment, et ça fonctionne très très bien. Et évidemment, Errol Flynn n'y avait pas pensé à Morgan Freeman. Hein. Non, il n'y avait pas lu le scénar.
Faut pas toujours penser à tout le monde. Hein.
Non. Et sinon, Sean Connery accepte d'apparaître à la dernière scène du film en campant le rôle du roi Richard, sans pour autant être crédité au générique. Il touche un cachet de 250 000 dollars pour une prestation de 2 minutes.
Ça
sans
va.
La douche.
Ça va.
Il décide de reverser l'intégralité de son salaire à des œuvres de charité en Écosse.
Bon,
Gentleman.
En même temps, son apparition, c'est un hommage au film de Richard Lester, La Rose et la Flèche de 76, dans
c'est
lequel il avait incarné un Robin des Bois vieilli par de nombreuses guerres. Et Sean Connery retrouve brièvement également Christian Slater, qui avait tourné avec lui dans le film
Le nom de la rose. Ah oui, magnifique aussi ce film. Et sinon, ce film, il est tourné en Europe, principalement en Angleterre, et au Shepperton Studio, là où le décor intérieur du château de Nottingham est entièrement construit. Voilà. Sinon, de nombreuses scènes sont également tournées autour et dans la cité de Carcassonne, en France.
Et il n'y avait pas un bar de type Cabrel qui était dans le coin pendant ce temps? La cabane au fond du jardin,
Il y en a un qui tournait la manivelle aussi, mais c'est autre chose, voilà. Ouais. Est-ce qu'on continue un petit peu la bio ? Allez, on continue un peu la bio.
On va parler un peu de Michael Kamen.
Arnold.
À lui-même.
Michael Arnold Kamen a étudié dans la prestigieuse école de musique de Juilliard, à New York, où il a appris le hautbois. Bah oui, hautboisiste, c'est mieux. Il y est rapidement devenu chef d'orchestre. Le type avait des aptitudes.
Ouais, c'est un des musiciens qui a le mieux réussi à marier la musique classique et le rock. Et avec 2 collègues, Marty Fulterman et Dorian Rudzinski.
À chaque coup, c'est pour toi.
Merci pour ça. Ils font le groupe New York Rock and Roll Ensemble, qui mêle rock et musique classique. Très sympa, c'est fin des années 60, début des années 70. Pour ceux qui aiment l'orgamon et justement le style rock, psyché, fin années 60, début 70, très sympa à écouter. Et il y a eu 5 disques.
Ah oui, tout de même.
Et sous son nom, mais avec plusieurs des mêmes musiciens, il publie le disque New York Rock en 73.
Et sinon, à la télévision, il a composé pour la série de la BBC Edge of Darkness, où il a collaboré pour la première fois avec un petit nouveau. Le cousin Eric Clapton.
Un petit guitariste qui débutait à l'époque.
C'était le mec qui était dans le métro.
Et justement, tiens.
Ça tombe bien.
On s'envoie une petite musique correspondante.
Faisons ça. Allez, c'est parti.
Edge of Darkness avec Eric Clapton, composé avec Michael Kamen.
You bastards! You bloody murdering bastards! It's your turn now!
Thank you.
Oh putain, ça tricote. Oh là là, ça joue de la guitare là, hein. Bah oui, ouais, c'est Eric
clairement,
Clapton.
Clairement. C'est, bah oui, c'est Clapton et Michael Kamen à la compo. Et on va vous passer une suite. On va se la faire en bête gentiment derrière.
Et tu vas nous parler de cette série que je ne connais pas.
Et
Edge
dans la
of
série, pour donner un indice, le morceau suivant s'appelle Nuclear Train. Ooh.
Oh, c'est sympa ça.
Ouais, pour bronzer.
On est dans les années 80, milieu des années 80. Bon, c'est sûr que la guerre froide.
Voilà. Ça
colle à l'actualité.
Il y a un côté complot militaro-industriel. Il est question aussi du côté très noir, très caché, très élitiste du nucléaire en Grande-Bretagne. C'est ce sur quoi est basée cette série, donc Edge of Darkness. Série évidemment dramatique de Martin Campbell et Troy Kennedy Martin. Une saison, 6 épisodes de 55 minutes, ça n'a pas vraiment trouvé son public, c'était en 85. Un petit synopsis histoire de poser. Ronald Craven, un policier sans histoire, voit sa fille se faire abattre sous ses yeux. La série suit son enquête pour découvrir les meurtriers, avant de réaliser qu'il est en train de mettre le doigt sur un complot, mêlant le gouvernement à un vol d'armes nucléaires.
Sympa.
Je vous laisse gratter un peu plus, on trouve. Malheureusement, la série a un peu vieilli. C'est taiseux, ça prend son temps, c'est pas inintéressant.
Mais musicalement, c'est très sympa.
Voilà.
Donc...
On parlait de 85 et donc Edge of Darkness, l'album d'Eric Clapton et Michael Kamen, il y a une justice à leur rendre, est sorti en toute logique la même année.
Ouais.
Et il y a eu un film aussi.
En 2010, par Martin Campbell, justement.
Bah oui.
Bah pareil, je ne l'ai pas vu.
C'est pas grave. C'est pas grave parce que, pas oubliable, mais bon, on y croise Braveheart, on y croise Martin Riggs. Mais là, pour le coup, là, il aurait mieux fait de s'abstenir.
Ouais.
Clairement. Et Clapton et Kamen furent d'ailleurs récompensés par un BAFTA Award pour leur travail. Ils ont aussi composé, par la suite, la musique des séries TV produites par HBO. Dont Frères d'Armes et De la Terre à la Lune. Et justement...
Tu nous parles de frères d'Armes
ou Band of Brothers. Mini-série américano-britannique en 10 épisodes d'environ 1 heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg, excusez du peu, d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose, et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. On l'a eu un peu plus tard.
Ouais. Et elle est considérée comme le premier volet de la série de mini-série L'Enfer du Pacifique et Masters of the Air sur la Seconde Guerre mondiale. Et l'appellation Frères d'Armes désigne un groupe d'individus ayant combattu ensemble et partagé la vie quotidienne lors d'une guerre. L'expression anglaise Band of Brothers est issue de la pièce Henri V de Shakespeare et plus particulièrement du discours tenu par Henri V d'Angleterre juste avant la bataille d'Azincourt. Tu nous fais un petit synopsis
ça faisait longtemps que tu nous en as pas fait.
Et on est toujours sur la musique justement de Edge of Darkness. Est-ce que tu veux que je te mette la musique de Band of Brothers ou
non,
tu fais le synopsis?
Je trouve que tu plies et on aura Band of Brothers à la fin du synopsis.
D'accord.
Une des tranchées justement occupée par les membres de la Easy Company lors des combats de décembre 1944 et janvier 1945 dans le Bois Jacques à Foix, Bastogne. Toujours visible de nos jours, ces combats sont évoqués dans l'épisode 7 pour ceux qui ont vu la série, dénommé Point de rupture. C'est inspiré de l'œuvre de l'historien Stephen E. Ambrose donc, et cette série retrace l'histoire de différents militaires de la Easy Company, on fait vraiment dans l'humain, du 506e régiment d'infanterie parachutiste et de la 101e division aéroportée US, dont les membres sont connus de
sous
le nom de Screaming Eagle ou Aigle Hurleur.
Ouais.
Donc, on a la création, puisque ça n'existait pas, de ses débuts jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et le premier épisode montre de façon, et c'est assez intéressant, dont les jeunes recrues des unités aéroportées sont très, très, très durement entraînées. La Easy Company est la plus entraînée de toutes les compagnies du régiment, par ambition du premier lieutenant, Herbert Sobel, joué par... Dans Friends, il joue Ross.
Oh, bah, j'ai pas vu.
David Schwimmer.
J'arrive pas à associer.
C'est pas grave.
Tu regardes, tu vois Ross, tu vois, mais tu t'as pas, bah, on va dire, les noms des acteurs.
Non, mais moi, je triche, je connais.
Si, je connais Jennifer Aniston, c'est normal.
Ben, paradoxalement, moins. Mais bon, c'est une autre histoire.
Au Courtney Cox.
Donc voilà, Monsieur Sobel, comme il est dit dans un moment où Monsieur Sobel, bah là, à force de tirer un peu trop sur la corde, commence à devenir légèrement incompétent, et il y a un retour de bâton, mais je vous laisse regarder la série, veut tout au début que sa compagnie soit bien vue et rend la vie de ses hommes aussi difficile que possible. Il les traite durement et leur impose un entraînement physique éreintant, notamment l'ascension du fameux mont Kerai, dont le régiment tirera sa devise. Kerai. Son commandant en second, le premier lieutenant Richard D. Winters, fraîchement promu, est mieux vu par les hommes et montre de meilleures aptitudes tactiques. Mais c'est l'armée. Donc bon, Sobel est malgré tout promu au rang de capitaine par le colonel Sink, mais ce dernier, après la presque mutinerie des sous-officiers de Sobel, est finalement contraint de l'affecter dans une école de saut en parachute pour personnel non combattant en Angleterre. Et revers de la médaille.
Et là, on va se faire la musique. On écoute tranquillement Band of Brothers. Allez, donc là, on était sur la musique de Band of Brothers. C'est le main title. Et une petite précision avant de passer à la suite, c'est que les 9 premiers épisodes, justement, sont précédés de l'intervention de vétérans de la compagnie, âgés alors d'environ 80 ans, commentant l'événement dont il va être question. Et le dernier épisode, quant à lui, se conclut par quelques mots de ces anciens de la Easy sur leurs camarades et leur expérience.
Voilà, et dans les acteurs principaux, on a l'excellent Damien Lewis, Donnie Wahlberg, que l'on connaît aussi, Neil McDonald.
Et là, bon.
Et sinon, Michael Kamen a écrit 11 ballets et a composé aussi de nombreuses bandes originales de films comme Brazil, Highlander, L'Arme Fatale avec Clapton, dont Die Hard, Permis de Tuer, Robin des Bois, Prince des Voleurs, X-Men. Et justement, qu'est-ce qu'on écoute, mon cher Yves ?
Oh, est-ce qu'il y a réellement besoin de présenter Monsieur Bryan Adams ? Allez, juste pour le plaisir, on en met un petit peu.
Ouais, sortez le nid. Search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do.
sais, c'est un sacrilège de couper Bryan Adams avec Everything I do it for you. Non, Jérôme, t'inquiète pas, c'est pas à toi que je suis en train d'annoncer ça.
Oh.
Mais c'est une chanson qui est tellement connue, tellement célèbre que vous l'écoutez régulièrement à l'antenne d'Ornithorynque. Donc, on peut se permettre justement de la laisser en bed pour pouvoir présenter justement cette chanson. Tu nous en dis un tout petit peu plus,
ouais,
là ?
Ouais, elle est écrite par Bryan Adams, donc, et Mutt Lange, autour d'un morceau de musique du film du compositeur Michael Kamen, interprété par Bryan Adams, comme on l'entend. Elle figure sur son album Walking Up the Neighbor en 91 et sur la bande-son du film Robin des Bois, Prince des Voleurs en 91 aussi. Ce trio d'auteurs-compositeurs a connu trois enregistrements numéro 1 au cours des années 90, dont When You Love Someone aussi. Énorme succès international, elle resta plusieurs semaines numéro 1 dans plusieurs pays d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Europe. Le single est resté à la première place 7 semaines aux États-Unis, 9 semaines au Canada et 11 semaines en Australie, 18 semaines au Royaume-Uni, un record qui n'est toujours pas battu en 2024. En 93, All For Love, également interprété par Bryan Adams, Sting, Rod Stewart, dans le film Trois Mousquetaires, est aussi composé par Michael Kamen. When it's love you give, I'll be your man of good faith. When in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, I swear I'll always be strong.
Ah, juste avant les trois voix super granuleuses de Bryan Adams, Rod Stewart et Sting sur All for Love.
Magnifique.
Ça vient de quel film, ça?
Eh ben, c'est toujours Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, publié en 1944. Mais alors, c'est produit par Disney. Et Disney, déjà à l'époque, c'était...
Gentil.
C'était je ferai comme je veux.
D'accord. Voilà.
Donc, je vais vous la faire courte, hein. On va retenir la BO.
Voilà.
Voilà. Et sinon, mon cher Yves, et sinon,
bah, on a un truc qui est moins gentil. Parce que
oui,
si je vous annonce permis de tuer tout
License
de suite,
to kill,
ça annonce quand même que c'est moins marrant que justement Les Trois Mousquetaires version Disney.
Ouais.
Et on a une chanteuse magnifique qui a interprété justement le titre License to kill. Elle s'appelle Gladys Knight. Et elle arrive maintenant.
License to Kill, film d'espionnage britannique réalisé par John Glenn, sorti en 89, 16e opus de la série des films de James Bond, produit par Eon Productions.
Avec un certain Timothy Dalton.
Ouais, qui incarne James Bond, violent, vengeur et dénué complètement de l'humour so-british, c'est très très noir. Pour la seconde et dernière fois, moi je dirais que c'est un peu le Rogue One version Star Wars.
Ouais.
C'est un film qui est vraiment... Ouais, c'est pas Disney. Là, c'est pas Disney. On n'est pas sur un truc qui...
Ça dépote, ça dépote sa mère, comme on dit dans les quartiers.
Voilà.
Et dans les quartiers des années 80, je veux préciser.
Ouais, bah, il vous expliquera. Moi, je sais pas, j'étais pas né. Mais bon. Voici une petite particularité du film dans la teneur de la mission de 07, expliquée par ces quelques répliques. Je vous joue M et Timothy Dalton. Votre petite vendetta à titre privé risquerait de compromettre le gouvernement de Sa Majesté. Je vous répète que vous avez une mission. J'entends que vous l'exécutiez avec objectivité et professionnalisme. James Bond d'ajouter, alors je vous remets ma démission, sœur. 007, nous ne sommes pas un club de vacances. Je vous démissionne sur le champ, je vous retire votre permis de tuer et j'exige que vous me rendiez votre arme, exécution.
Ouais, et là, donc, James Bond est bien freelance dans ce film. Il n'est pas 007.
Ouais, le mec a lancé sa dem. Voilà. Alors qu'une autre musique se pointait à l'horizon, mon cher Yves. C'est plus James Bond, ça.
Non, on est parti dans un domaine où on meurt également et difficilement. Die Hard, troisième épisode.
Oui, avec un thème très connu, les fameux Let Them Cook. Et on va continuer de parler de Permis de tuer, donc, qui est un film d'adieu puisqu'il marque la cinquième et dernière réalisation consécutive du cinéaste John Glenn, ainsi que la dernière participation de Broccoli, du scénariste vétéran Richard Maybaum, du directeur de la photographie Alec Mills et du concepteur du générique Maurice Binder. On tourne une page. C'est en outre le dernier à mettre en scène, bien que brièvement, les acteurs Robert Brand et Caroline Bliss dans les rôles de
M et Miss Moneypenny. Et le film est basé sur un scénario original écrit par Wilson et Maybaum. C'est le premier de la série à ne pas reprendre le titre d'un roman ou d'une nouvelle de l'écrivain Ian Fleming, bien qu'il intègre des éléments du roman « Vivre et laisser mourir » de 1954 et de la nouvelle « Le spécimen rare » de Hildebrand, issu du recueil « Bon baiser » de Paris. Et parmi les films de la saga, « Permis de tuer » est notable pour son intrigue plus sombre qu'à l'accoutumée.
Ah ouais, très très sombre. Bond traque un puissant trafiquant de drogue du nom de Franz Sanchez. Pas très original, ça par contre. Pour se venger de la mutilation de son ami Felix Leiter. Oui, lui, il en prend plein la tronche jusqu'à mourir dans le dernier, mais bon, c'est une autre histoire. Et du meurtre de son épouse Della Churchill.
Et c'est en outre le seul de la série à se dérouler presque exclusivement en dehors du Royaume-Uni.
C'est vrai.
Et
c'est vrai.
Donc, c'est États-Unis, Mexique.
Et les scènes intérieures ont été filmées au studio Churubusco de Mexico, au lieu des fameux studios de Pinewood.
Tiens, pour une fois, tu m'as pas laissé le mot pourri.
Non, c'est vrai, je l'ai pris. Et puis, je l'ai fait nickel. Ouais. Tiens, voilà, c'est un défi. Enfin, Permis de tuer est le troisième film et le premier depuis Moonraker en 79 à avoir fait l'objet d'une adaptation en roman. Écrite par l'écrivain britannique John Gardner. Elle est également sortie en 89 et suit de près l'intrigue du film, ce serait dommage quand même, tout en y ajoutant quelques scènes.
Bon, et le film a aussi été réimaginé pour le jeu vidéo de 2012, 007 Legends, qui reprend des événements de 6 longs métrages de la série, et Carey Lowell a repris son rôle dans ce jeu.
C'est assez intéressant.
Donc, on arrête James Bond parce qu'on a quand même Die Hard qui est en train de... Il y a John McClane qui est en train de se balader dans une ville.
Il est en train de sauver le monde, faut pas déconner.
Tu nous en parles un peu de ce John McClane.
On va en parler. Je sortais Samuel L. Jackson, le Samaritain d'ébène.
Ouais.
Tu as quelque chose contre l'ébène et je vous ferai pas la suite, on est à la radio. Donc voilà.
Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo justement.
C'est ça, voilà. Die Hard, série de films d'action américaine bien connue ayant un succès populaire notable en termes de recettes. Elle a également été adaptée en jeu vidéo. Bruce Willis joue le rôle principal, celui de John McClane. La série est composée de 5 épisodes. Piège de cristal, 88. 58 minutes pour 8.
90.
Pour 10. Voilà, une journée en enfer.
95.
Alors, c'est savoureux, mais au Québec, on dit marche ou crève.
Ouais.
Remercie les Québécois. Ouais.
C'est de celui-là donc qu'on écoute la musique qui passe actuellement.
Voilà. On a Die Hard 4, ou alors John McCain découvre Internet et les ordinateurs.
En 2007.
Et ou Vie libre ou crève,
ouais,
au Québec.
Oui.
Merci aussi.
Et
sinon, on a le fameux Die Hard, belle journée pour mourir.
En 2013.
Voilà, ou une belle journée pour crever au Québec,
ouais,
dans la série L'Originalité. Et un sixième épisode provisoirement intitulé McClane ou Die Hard 6 devait être réalisé par Lynn Weisman avec Bruce Willis. Cependant, en août 2019, il est annoncé que Disney envisage un reboot plutôt que le sixième film avec Bruce Willis.
Sachant que
Bruce Willis,
il
s'est fait diagnostiquer.
Il est un peu en mauvais état depuis 2022, aphasie. Donc,
ça a mis un terme à sa carrière et on pourra donc plus jamais incarner le premier.
Et en même temps, moi j'avoue, la crédibilité arrive à 70 ans, elle est pétée des tronches, ça devient malheureusement moins crédible.
Ça commençait à sentir le... Ouais.
Par contre, s'ils font un reboot, il va falloir trouver un mec aussi charismatique.
Alors le reboot, je ne sais pas s'il était acté. Cela dit, Bruce Willis, après avoir arrêté ça, a fait un truc rigolo sur une série de films marrantes où on revoit toutes les vieilles gloires des années 90. J'ai nommé les Expendables.
Ouais.
Donc on croise toutes les gueules, Stallone, Statham,
Schwarzenegger,
voilà.
On a Chuck Norris,
on
va pas tous les citer parce que là, l'émission, il est déjà 21h42. Donc
on vous fera ça dans les suites le mois prochain, mais on en parle après. Donc deux compositeurs ont œuvré sur cette série de films, Kamen pour les trois premiers et Marco Beltrami pour les deux derniers.
Et en 91, il a travaillé avec Metallica sur le Black Album, en particulier la chanson Nothing Else Matters. En 99, sur le concert symphonique qui est appelé SNM, Symphonique Metallica. En 91, un concert est donné avec Aerosmith pour les 10 ans de MTV et il a travaillé, collaboré avec Pink Floyd sur les albums The Wall, The Final Cut, ainsi qu'avec Roger Waters sur The Pros and Cons of Hitchhiking, avec Sting, David Bowie, Kate Bush, Bryan Adams, Queen, Eurythmics, Queensryche, Rush, Herbie Hancock, Lenny Kravitz.
C'est tout.
N'en jetez plus.
C'est ça, il y a un peu, je laisse.
Et justement, voilà. C'est son passé rock initial avec son groupe dans les années 60-70, où il manie le classique et le rock. Il l'a perpétué dans ses musiques de films et dans ses collaborations.
Il avait ça. En 98, Michael Kamen publie un concerto pour guitare électrique, dont le soliste est le guitariste japonais Tomayasu Otei. Alors allez voir ça, c'est dans les Matrix. Allez le trouver dans les Matrix et allez voir aussi le guitariste en lui-même dans ses albums. C'est juste énorme et ça envoie du pâté grave. Mmh. Michael Kamen a été nommé 2 fois aux Oscars et a remporté 4 Grammy Awards, 2 Golden Globe Awards, 2 Ivor Novello Awards, un Annie ainsi qu'un Emmy Award.
Mais et malheureusement, il souffrait de sclérose en plaques et c'est une crise cardiaque le 18 novembre 2023 qui l'a emporté. Et à l'époque, il travaillait sur l'album de Kate Bush, Aerial, qui sortira finalement en novembre 2005. Je l'ai, il est très très bien. Déjà, c'est Kate Bush. Donc Kate Bush, Michael Kamen, ça peut être que du beau.
Bah oui, on fait confiance à tonton Yves en ce qui concerne ce genre de musique.
On est en train d'arriver à la fin de la musique de Die Hard et il y en a une autre que je vous envoie. Et on revient juste après ce petit bout de musique de Hudson Hawk.
Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur est un film américain réalisé par Michael Lehman, sorti en 91. L'action du film s'appuie sur des effets issus des cartoons, incluant des effets sonores qui donnent au film une note totalement surréaliste. Alors ce film, on l'aime ou on l'aime pas, c'est totalement clivant. Moi, j'ai adoré. Le scénario mélange des théories conspirationnistes, des sociétés secrètes, des mystères historiques, ainsi que des gadgets à la James Bond inspirés de films parodiques comme Notre Homme Flint en 66, où jouait déjà James Coburn. Le film met en vedette Bruce Willis et Andy McDowell dans les rôles principaux. Et justement, on écoute Michael Kamen et Robert Kraft sur Stealing the Codex.
Les 20 dernières secondes. For football, y'all. Captain is tying, ready
Le dernier Samaritain ou le dernier Boy Scout au Québec, toujours des titres formidables.
J'adore ce film, il est tellement décontracté, décomplexé, il est génial.
Il est énorme. Film américain réalisé par Tony Scott. Joe Allen Beck, ancien agent du Secret Service, est devenu détective privé et alcoolique. Totalement paumé, il travaille parfois pour son meilleur ami, Mike Matthews. Joe vient de découvrir que ce dernier couche avec sa femme, Sarah.
Ça va.
Ça réagit mal. Mike lui propose malgré tout une mission, protéger une stripteaseuse appelée Cory. Et dans la série Emmerdement à tiroir, juste après lui avoir donné l'adresse de la jeune fille, Mike meurt dans l'explosion de sa voiture juste devant chez Joe. Un conseil pour vous qui êtes chez vous, ne fréquentez pas Joe. Non, dans ce film, faut pas. Ouais. Et alors qu'il surveille Cory, Joe fait la connaissance de son copain Jimmy Dix, ancien running back, cocaïnomane, renvoyé des Stallions pour paris sportifs illicites. Malgré la surveillance de Joe, des tueurs assassinent Cory sous leurs yeux. Les deux hommes s'associent donc pour découvrir les raisons de ce meurtre. Joe par professionnalisme et Jimmy pour venger sa copine. Allez voir ce film.
C'est totalement décomplexé et la première fois que je l'ai vu, c'est tout de suite devenu un coup de cœur.
C'est un bonheur. Ce film est un bonheur.
Et c'est à nouveau Bruce Willis qui est dedans. Donc toute la coolitude de l'époque, années 80-90 dans les films d'action.
Voilà,
c'est décomplexé, de l'humour noir, ça va tout seul.
Voilà.
En fond sonore, on a changé, on est toujours donc avec Michael Kamen en compositeur. Et là, on est sur une musique qui s'appelle Jack and the Ripper, tirée d'un film qui s'appelle
Last Action Hero
de John McTiernan.
Film américain réalisé donc par John McTiernan, avec notamment dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien et Charles Dance, avec la participation d'Anthony Quinn.
Et Schwarzenegger qui se moque de son image de super-héros. C'est, malheureusement, le film n'a pas eu le succès. C'est
il est sorti
film
au mauvais moment. Je me suis demandé pourquoi il était sorti là. Ça n'a pas trouvé son public. Ouais,
malheureusement, il est génial. Allez le voir, mais c'est pareil, totalement décomplexé.
C'est ça. Et le film donc raconte les péripéties d'une aventure policière loufoque qui est une satire du genre des films d'action et des clichés associés, traités sur le thème de la parodie sous la forme d'un film contenant un film.
Et avec, justement, on peut rentrer dans le film du héros, où le héros il peut venir dans la vraie vie.
C'est
et donc,
ça, c'est ça.
Grâce à un ticket magique.
Ouais,
Et donc, le héros du film, quand il arrive dans la vraie vie, bah, il est surpris que ça fait mal.
Oui. La dynamite, quand t'es pète, ça tue. C'est assez rigolo.
C'est totalement décalé.
C'est vrai que ce film
c'est
assez
bon.
Rigolo. C'est un peu les Expendables aussi avant l'heure. On se moque de ce qu'on a été. Vraiment.
Ouais. Mais
on
voilà.
On est déjà passé à autre chose parce que le temps file, mon chéri.
Ça n'a pas trouvé son public. Et on avance dans le temps. On pourrait vous citer tous les films pour lesquels Michael Kamen a composé. Mais celui-là est quand même important dans le sens que c'est Le Géant de Fer. The Iron Giant, un très beau
99.
Film d'animation avec une poésie. Et si vous connaissez Le Roi et l'Oiseau tiré d'un conte, c'est cette même magie. Allez, j'en laisse un tout petit peu réel à l'écoute.
Le Géant de Fer, The Iron Giant, réalisé par Brad Bird, dont il a co-signé le scénario avec Brent Forrester et Tim McConley. Adapté d'une nouvelle de Ted Hughes publiée en 1968. Le film se déroule dans le nord-est des États-Unis, à la fin des années 50, où un grand robot, d'une hauteur de 30 mètres, d'origine extraterrestre, se lie d'amitié avec un garçon de 8 ans et un jeune artiste, beatnik.
C'est ça, c'est toute cette magie, toute cette improbabilité, mais au lieu que ça soit un film d'extraterrestre qui vient envahir la Terre...
C'est pas Iron Man,
c'est
poétique, ça prend son temps, c'est beau.
Et justement là, c'était le prélude qu'on a entendu et ça glissait tout seul. Et là,
mais on sent autre chose derrière. Il monte quelque chose. On est dans le glorieux. On est dans l'épopée.
On ressort le côté épique puisque nous sommes avec
Écolégramme, les trois mousquetaires, mon cher Yves, les trois mousquetaires.
J'en glisse deux notes de plus là.
Allons-y, glissez donc.
Voilà, on est vraiment dans l'épique. On en a déjà eu avec Robin des Bois, donc on va pas vous remettre trop ce côté épique de Michael Kamen. En même temps, on est en train de s'approcher de la fin de l'émission, donc on a encore quelques petits trucs à dire sur Michael Kamen pour bien finir. Comme je vous disais, on peut pas donner toute sa filmographie. Il y a 25 ans de composition et il y a un nombre de films très important. On reviendra
films, d'albums,
justement.
De collaboration, il a été acteur, il a créé une fondation. C'est vraiment un couteau suisse, finalement. Et son seul problème, c'est d'être mort trop tôt.
Voilà.
Comme beaucoup, d'ailleurs.
Et certains vont peut-être dire, mais on n'a pas parlé de Die Hard plus que ça, de l'arme fatale plus que ça, mais en réalité...
C'est que vous n'écoutez pas, parce que j'en ai parlé.
On en a parlé. Pas de tous les films, parce qu'on n'allait pas... Si on veut passer une musique de chaque film, on fait une émission rien qu'avec Die Hard et rien qu'avec l'arme fatale. Mais on va peut-être y revenir... Le mois prochain.
C'est fort probable. Et on était donc en compagnie du compositeur Michael Kamen. Et car moi... oui, c'est déjà la fin.
Oui.
Mais et moi, on sent ton stress à la technique.
Bah justement, et en même temps, je regarde l'heure, justement, il est 21h55, donc je sais que dans 5 minutes, je suis la Reine des Neiges, délivrée et libérée.
C'est Teddy, un peu ça, on en est tous rendus là.
Teddy, 9 mai, t'es là, s'il te plaît.
Merci Mylan, reviens aussi.
Ouais, parce que voilà. au moins on verrait nos physiques de radio à la télé.
Ah ouais, ça changerait tout. Et en attendant, on remercie nos auditeurs, on le fait à l'ancienne, hein. On n'a pas Facebook, c'est bizarre, mais on gagne du temps, c'est pratique. Merci les gens de nous suivre, parce que sinon, on servira à rien aussi. Hein.
Ouais. Et pour nous quitter...
Ah oui, ouais, bon. Oui. Bah, c'est moi qui l'ai choisi. Hein, donc...
et je vais déjà le mettre en fond sonore.
Oui, on a choisi une musique de film ayant connu plusieurs films pour faire le lien avec la thématique de mai, on traitera des suites de films. C'est donc Lethal Weapon 3, Eric Clapton, Elton John. On écoute Runaway Train. On se dit au mois prochain. Salut les gens.
Merci Jérôme, à la prochaine.
Salut.
Salut.
Spirit, cool and clean, in the eye of a lifelong fire.